Par actualité. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 février 2017 et c'est Clotilde Sahay qui vous parle sur les ondes de Canal M et qui vous accompagne pour ces paractualités du jour avec en titre « Le cri du cœur d'une mère entendue par Québec. Des zèbres réclament une stratégie sur les maladies orphelines. » La coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec affirme son existence et la mère d'un enfant autiste dénonce le manque de souplesse d'un critère d'inscription. Également de l'aide en premiers soins pour la santé mentale au Nouveau-Brunswick. Et il y aura deux entrevues aujourd'hui avec Julie Fournier, qui est sexologue, et nous parlerons de la sexualité chez les personnes non-voyantes. Et également de l'Institut des troubles d'apprentissage, nous recevrons Monsieur Jérémy Desports, je pense que l'on prononce comme cela, il nous le dira, au sujet du 42e congrès de l'Institut des troubles d'apprentissage. Alors, le cri du cœur d'une mère entendu par Québec, c'est d'après un texte d'Isabelle Doré pour TVA Nouvelles. Le cri du cœur lancé par la mère d'un enfant lourdement handicapé a été entendu. La maman du petit Douglas pourra obtenir l'aide supplémentaire qu'elle réclamait depuis un an. Quand le gouvernement a refusé, j'étais vraiment déçue, lance Alexandra Dillon, la mère de l'enfant de 3 ans. Mais la bataille aura été longue pour cette mère de famille qui tentait de faire reconnaître depuis un an le handicap sévère de son enfant. Une aide financière de tout près de 1 000 $ mensuellement sera finalement accordée à la mère qui vit à Sherbrooke. Je vais pouvoir embaucher quelqu'un quelques jours par mois pour venir à la maison et prendre soin de lui. Je vais pouvoir prendre du temps avec mes 2 autres enfants qui ont 8 et 5 ans. Ils en ont manqué ces 4 dernières années. Pour le reste, ça va être les médicaments et quelques traitements privés pour Douglas. Il y a quelques semaines, Retraite Québec jugeait que la demande ne répondait pas aux critères. Le ministre responsable de l'Estrie avait d'ailleurs été saisi du dossier. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer que l'évaluation avait été faite correctement. Maintenant, il y a eu du changement, alors c'est une très bonne nouvelle, explique le ministre Luc Fortin. À la naissance, Douglas a fait une méningite encéphalite, provoquant des lésions sévères au cerveau. Le manque d'oxygène a provoqué une série de handicaps. Le garçon de 3 ans ne parle pas, ne peut se déplacer et a fait des crises sévères d'épilepsie. Douglas est suivi par une 12aine de spécialistes et sa mère doit constamment être à ses côtés. La jeune mère de famille est rassurée par la volte-face de Québec. Elle fait le souhait que les dédales administratifs soient moins lourds et plus humains pour d'autres familles qui, comme elle, ont une autre bataille à livrer. Des zèbres réclament une stratégie sur les maladies orphelines. D'après un texte de Josie Desmarais dans le journal Métro, des patients sont descendus dans le métro de Montréal lundi matin, hier donc, pour demander au gouvernement une stratégie sur les maladies orphelines. Une 20aine de patients et de proches aidants ont ainsi manifesté déguisés en zèbres pour sensibiliser la population aux difficultés auxquelles ils font face. Mais pourquoi un tel déguisement? En médecine, les professeurs disent à leurs élèves que lorsqu'ils entendent des bruits de sabots, ce qui correspond aux symptômes, de penser au cheval, qui sont les maladies les plus communes, plutôt qu'aux zèbres, qui sont les maladies rares. Cela a pour conséquence de limiter les chances de diagnostiquer nos maladies. Nous, on dit penser aussi aux zèbres, explique Gail Ouellette, PDG du regroupement québécois des maladies orphelines, la RQMO, ce qui m'amène à vous dire que c'est aujourd'hui même qu'a lieu, en ce moment même d'ailleurs, au complexe Desjardins, sur la grande place du complexe Desjardins, le salon des maladies orphelines. Si vous voulez y aller cet après-midi, c'est le temps peut-être d'aller rencontrer l'association, en tout cas des gens de l'association de la neurofibromatose du Québec ou encore de l'association québécoise des personnes de petite taille ou l'association pour la dystrophie musculaire Canada, etc., etc. Cet après-midi, au programme, une conférence, témoignage dès midi de Loïc Bidal, un jeune de 13 ans qui est atteint de la maladie de Morquillo. Ce sera un témoignage personnel à 12h30. Conférence témoignage de M. Pierre Lavoie, l'instigateur du grand défi Pierre Lavoie. Et à 15h30, si vous le désirez, vous pourrez assister à la présentation du film documentaire Alphée des étoiles du réalisateur Hugo Latulippe. Elle est sexologue et elle nous présente aujourd'hui, du moins c'est le sujet dont il sera question entre nous. Nous allons parler de la sexualité chez les personnes non-voyantes, entre autres, entre guillemets, peut-être éventuelles difficultés chez ces gens-là. Parlons-en tout de suite avec Julie Fournier. Bonjour Madame Fournier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. J'ai pris connaissance d'un texte que vous avez écrit sur les personnes handicapées visuelles, sur les défis au quotidien qu'ils ont à relever et parfois même des choses à laquelle on ne pense pas. Hein? Mm-hmm. Par exemple, avoir un rendez-vous galant avec quelqu'un. Est-ce que ma robe est tachée? ou même les sous-vêtements?
Exact.
Hein? Alors, tout ça, ça fait partie... Alors, à quel défi particulier les personnes non-voyantes ou malvoyantes se heurtent-elles en termes relationnels et de sexualité?
Bien, tout d'abord, c'est des bons exemples que vous avez donnés.
Oui.
Il y a aussi les cas de séduction qui sont différents. Donc, normalement, la séduction va passer d'abord par l'échange de regards. Mm-hmm. Donc, on sait évidemment que pour les personnes qui ont un handicap visuel, ça va plutôt être le sens du toucher qui va être privilégié. Mais donc, là, il faut que nous aussi, on s'adapte à ce handicap-là, donc au sens du toucher. Il y a aussi le fait que c'est pas toujours évident de sortir de la maison, d'essayer des nouveaux endroits, des restaurants, par exemple. C'est pas toujours, tu sais, les messages textes à l'heure actuelle, c'est difficile aussi pour ces personnes-là. Donc, il faut vraiment s'adapter là, à ce genre de difficultés-là. Donc, la personne qui a un handicap visuel va souvent nécessiter une aide là, pour certaines choses. Donc, il y a un petit peu moins d'intimité à ce niveau-là. Ça peut être tout un défi comme ça.
J'imagine que c'est prouvé. Les personnes qui vivent avec une déficience visuelle sont... Il y a beaucoup plus de célibataires dans ce groupe de personnes que chez les personnes voyantes?
Écoutez, j'imagine, j'ai pas de statistiques à vous fournir à ce niveau-là, mais je sais que les gens vont avoir plus tendance à s'isoler par rapport au handicap visuel, donc ça peut être un plus gros défi à ce niveau-là, oui.
Alors, il y a des tabous hein, qui ont la vie dure. Je sais que ça en agace, vous savez, beaucoup, en tout cas, chez les personnes qui sont, par exemple, handicapées, moteurs, en fauteuil roulant. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus qu'on parle de tabous, de la sexualité. Comment on pourrait remplacer ce mot-là en ce qui concerne la vie intime des personnes voyantes? Et est-ce qu'il y a encore des tabous par rapport aux personnes non-voyantes?
Ben malheureusement oui, et je vous dirais le principal tabou. Puis on pourrait, je sais que comme vous venez de dire, on n'en parle pas non plus nécessairement pour les personnes qui ont un handicap général, tout autre. Mais ce qu'on a l'impression, c'est que ces gens-là n'ont pas de vie sexuelle, n'ont pas de vie amoureuse. Qu'ils ont, tu sais, on n'a pas l'impression qu'ils ont envie de vivre une situation amoureuse, relationnelle, sexuelle, alors que c'est complètement fou. Tout le monde a le droit et tout le monde peut avoir envie de ça. Là. Donc, je voudrais que c'est le principal tabou là, qu'on fait encore face aujourd'hui, malheureusement.
Ah oui, encore avoir dans l'idée que cette personne-là est non-voyante, donc elle n'a pas de sexe. C'est aussi clair que ça.
Exactement.
OK. Est-ce qu'il existe une personne qui nous écouterait en ce moment qui se sentirait peut-être seule étant effectivement déficiente et vivante avec une déficience visuelle, est-ce qu'il existe des regroupements? Est-ce que ces gens-là s'en parlent entre eux? Qu'est-ce qu'on peut faire? À quelle porte peuvent-ils frapper si c'est vraiment le cas?
Bien, c'est sûr que faut pas sous-estimer leur potentiel d'abord et avant tout. Donc, il y a plusieurs outils qu'ils peuvent utiliser. Là, si on pense, par exemple, à l'heure actuelle, là, des ordinateurs, il y a des logiciels, il y a des regroupements de personnes aussi. Donc, faut vraiment essayer d'aller chercher de l'aide. On peut demander aux gens autour de soi aussi des personnes à qui on a confiance, qui peuvent nous aider. Mm-hmm. Puis pour d'autres choses, essayer de garder sa part d'intimité aussi là, jusqu'à une certaine limite. Là.
Bien
mais,
sûr.
Il y a beaucoup d'outils. Ouais.
Oui, mais c'est ça. Mais est-ce que ces gens-là utilisent les outils qui sont mis à notre disposition, par exemple sur les sites de rencontres et tout ça? Est-ce que vous pensez que les personnes non ou malvoyantes utilisent des sites comme cela?
Ben malheureusement, la majorité vont se limiter par rapport à leur handicap. Il y en a beaucoup qui vont justement se mettre des limites pour pas avoir à faire face au tabou, pour pas avoir à faire face à l'anxiété que ça peut générer aussi. aussi de découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles personnes, des nouveaux outils, de demander à des personnes de les aider aussi. Donc, généralement, ce que j'en sais, c'est qu'ils vont se mettre des limites, mais il faut vraiment surtout pas se mettre des limites. Là.
Non, c'est ça. Une question qui, je l'espère, ne sera pas indiscrète en tant que sexologue, et vous me le direz dans votre réponse, mais est-ce que vous avez beaucoup dans votre clientèle de personnes qui viennent vous voir parce qu'ils vivent avec un handicap, quel qu'il soit?
Non, je vous dirais que c'est vraiment pas commun, surtout en privé, là, on en voit moins, évidemment, mais ça fait partie peut-être d'une autre certaine limite que les gens se mettent.
Oui,
j'imagine.
C'est ça. Exactement, exactement, parce que ça leur ferait peut-être du bien, je veux dire, si vous êtes là pour tout le monde, parce que Dieu sait s'il y a beaucoup de gens, entre guillemets, dits normaux, mais qui souffrent de plusieurs handicaps par rapport à la sexualité, donc, fauteuil ou non, il y a peut-être des gens en fauteuil ou qui sont mal ou non-voyants, qui ont une sexualité beaucoup plus élaborée et beaucoup plus heureuse que les personnes sur deux pattes et avec leurs yeux, hein.
Totalement, totalement.
Bon, bah écoutez, alors il faudrait, je sais pas là, qu'est-ce qu'on se souhaite, Madame Julie Fournier, qu'est-ce qu'on se souhaite, que les tabous soient levés, qu'on puisse inclure dans nos vies, y compris dans nos vies sexuelles, les personnes qui vivent avec un handicap quel qu'il soit.
Oui, ben on souhaite de s'ouvrir hein, à toutes sortes de réalités pour tous les gens. On a tous des réalités différentes, même si on n'a pas d'handicap, c'est différent pour tout le monde. Donc, de s'ouvrir l'esprit puis de découvrir plutôt que de juger, ça serait gagnant.
C'est ça, hein, ce serait déjà un bon pas. Voilà. Ben écoutez, Madame Fournier, je rappelle que vous êtes sexologue et psychothérapeute, membre de l'Association des sexologues du Québec. Vous avez gentiment répondu à nos questions et je vous en remercie et vous souhaite une belle fin de journée.
Ben ça me fait plaisir, merci à vous.
Je vous en prie, au revoir.
Bye bye.
La Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec, la CPE-BPQ, est heureuse d'annoncer qu'elle tenait son assemblée de fondation à Québec ce samedi dernier, le 18 février. Une vingtaine de membres ont participé à cette première assemblée au cours des deux dernières années, soit entre la création du groupe et la fondation de l'organisme provincial. La CPE-BPQ a su se tailler une place au sein des structures qui œuvrent sur la question scolaire au Québec, participant entre autres aux consultations publiques sur la réussite éducative à l'automne 2016. Plus de 1900 personnes, dont la plupart sont des parents, suivent les activités de la Coalition sur sa page et son groupe Facebook. La Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec a pour mission de défendre et promouvoir les intérêts des enfants à besoins particuliers, tout diagnostic confondu, et de leurs parents dans leur parcours éducatif, accroître leur bien-être et leur participation sociale, sensibiliser les différents acteurs en éducation, direction d'établissement, enseignants, éducateurs, etc., aux besoins particuliers de leur clientèle tout au long de leur parcours éducatif. En pleine complémentarité avec ses partenaires, la Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec veut développer son implication, tout particulièrement dans le dossier de la politique sur la réussite éducative, celui-ci touchant particulièrement le bassin d'élèves qu'elle représente. Les statistiques le démontrent, trop peu d'élèves dits handicapés ou à difficulté d'adaptation ou d'apprentissage obtiennent une qualification ou un diplôme d'études secondaires. Alors, pour suivre les activités de la Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec, vous pouvez entre autres aller sur leur page Facebook, www.facebook.com/CPEBPQ. En région, la mère d'un enfant autiste dénonce le manque de souplesse d'un critère d'inscription. Ça se passe pas très loin de Montréal, ça se passe à Repentigny. Mélanie Beauvais est maman de deux jeunes enfants, dont Dylan, qui est autiste et fréquente l'école Henri Bourassa et Soleil de l'Aube de Repentigny. Confiante que ses fils pourraient étudier à la même école lors de la prochaine rentrée scolaire, puisque son Benjamin est maintenant en âge de fréquenter l'école, la résidente de l'Épiphanie a appris qu'il en serait tout autrement. En effet, l'inscription de mon garçon de 5 ans n'a pas été retenue. Habituellement, dès qu'un enfant d'une famille va à l'école, les autres enfants de la même famille ont priorité, avance Mme Beauvais, en évoquant le critère d'inscription de la Commission scolaire des affluents, autrement dit la CSA, qui favorise la fratrie et l'unité familiale. Même après des démarches auprès de la direction de l'école, celle-ci demeure inflexible, selon la mère de famille. Impossible que ces deux enfants soient inscrits à la même école en septembre prochain. Mon fils autiste a besoin de stabilité et a déjà des besoins particuliers. Alors ça n'a pas de sens, se désole-t-elle. Sur le site web de l'établissement d'enseignement, on peut y lire que l'école Henri Bourassa et Soleil de l'Aube est une école à vocation spéciale. Mais ce sont en fait deux écoles qui cohabitent ensemble et forment, suite à la fusion, une seule et même école avec deux particularités, poursuit cette même description. Du côté d'Henri Bourassa, que fréquente Dylan, 9 ans, on accueille des enfants en adaptation scolaire, soit une quarantaine d'élèves avec un trouble du spectre de l'autisme. Quant à Soleil de l'Aube, il s'agit d'une école alternative où les places disponibles sont limitées et où le nombre d'inscriptions est considérablement élevé. Par exemple, pour l'année scolaire 2017-2018, seules 12 places sont disponibles au niveau préscolaire sur 19 élèves au total. Je suis déçue parce que mes enfants ne seront pas ensemble et qu'ils n'auront pas la chance de se voir davantage, mais aussi parce que ça complique tout, conclut la mère de famille qui ne comprend pas qu'un établissement d'enseignement qui partage la même bâtisse et la même administration puisse ne pas partager la condition de la fratrie à l'instar des autres écoles de la CSA. C'était dans le journal Hebdo Rive Nord et c'était d'après le texte d'Olivia Ngwoni. Jérémy Desport, bonjour Jérémy. Allô? Monsieur Desport? Allô? Monsieur Desport, hein? Est-ce que Monsieur Desport ne serait plus en ligne? Nous aurions parlé de l'Institut des troubles d'apprentissage. Le sujet, pendant que mon ami Jean-Sébastien essaie de recontacter la personne, le sujet, c'est le 42e congrès de l'Institut TEA, donc autrement dit de l'Institut des troubles d'apprentissage. Et à ce sujet-là, je suis censée parler à Monsieur Jérémy Desport et j'ai l'impression que ça va se faire dans quelques seconde. Monsieur Desport.
Oui, bonjour.
On vous avait perdu.
Oui, je suis là.
Alors, j'ai déjà fait un préambule donc, pour annoncer ce 42e congrès de l'Institut TEA, donc l'Institut des troubles d'apprentissage. Quel est le... Bon, déjà, 42e, hein, ça fait un bail. J'imagine que c'est annuel.
Oui, tout à fait, c'est tous les ans.
C'est tous les ans. Quel est l'objectif visé par l'organisation d'un tel congrès, notamment cette année?
Et en fait, le but premier, c'est d'outiller en fait, les professionnels et les enseignants face aux troubles d'apprentissage et leur donner un maximum donc, d'outils pour parer aux défis rencontrés avec leurs élèves ou les différentes personnes des troubles d'apprentissage dans leur quotidien.
Et Dieu sait s'ils en ont besoin, parce que de plus en plus, à cause des coupures, on parle de mélange, hein, d'enfants qui sont à la fois aux prises avec ces troubles d'apprentissage et d'autres qui n'y sont pas. Mais alors, on fait quoi avec ces enfants-là, finalement? C'est ce que vous leur apprenez.
Exactement. On leur donne, en fait, des ateliers de formation avec la pointe des conférenciers et des experts répartis à travers le Québec et à travers toutes les universités et centres de santé travaillant de près avec les troubles d'apprentissage pour leur donner vraiment les rudiments et les dernières avancées technologiques pour pouvoir donc les préparer et puis encadrer au mieux donc tous ces jeunes qui en ont lourd dans leur assiette.
Et il y a Madame Brigitte Stanquet hein, qui est présidente du 42e congrès de l'Institut TEA. Qui est Madame Stanquet?
Alors, Mme Stanquet, en fait, est orthophoniste et professeure à l'Université de Montréal. Donc, elle est vraiment une experte dans ce domaine-là. Et c'est elle qui a vraiment initié puis donné la couleur à notre événement de cette année autour notamment donc du thème phare qui est le dépistage précoce. Puisqu'on note que de plus en plus d'enfants donc en bas âge présentent déjà le jardin d'enfants, la garderie, des troubles d'apprentissage ou des petites manies qui mettent un peu la puce à l'oreille.
Donc le thème, l'un des thèmes, c'est ça, c'est le dépistage beaucoup plus tôt que ce qu'on fait en ce moment, c'est bien ça?
Tout à fait, est-ce qu'il y a d'autres précoces en bas âge.
D'accord, Jérémy Desport, est-ce qu'il y a d'autres thèmes pour cette année?
Oui, tout à fait, il y a notamment l'éducation en milieu autochtone, donc on parle de plus en plus au niveau donc, de l'actualité donc, du milieu autochtone, pas forcément donc, dans les... dans de bonnes notes, malheureusement. Mais c'est un peuple qui a justement beaucoup, beaucoup besoin de notre aide et qui dispose justement des moyens financiers pour pouvoir avoir accès à ces services-là, mais qui manque gravement donc de personnel qualifié pour pouvoir répondre justement à cette demande colossale.
Autrement dit, ce sont des thèmes qui n'ont pas été choisis par hasard, hein?
Pas du tout, pas du tout. Puis il y en a un autre qui est quand même très, très, très important et qui est dans l'actualité plus que jamais, celui de la diversité et de l'immigration. On a
oui.
de plus en plus donc d'étudiants et de jeunes adultes qui arrivent donc de l'étranger
oui.
Et qui sont des élèves allophones, donc qui vraiment doivent apprendre le français du fait de leur arrivée au Québec et qui tentent tant bien que mal d'essayer de se faire donc justement un chemin dans notre système scolaire en essayant d'apprendre en même temps notre langue qui est quand même pas une des langues les plus faciles à assimiler.
Non, c'est certain. Et là, je me mets aussi à la place, effectivement, des enseignants qui se retrouvent dans une même classe avec des enfants qui ont des troubles d'apprentissage, des enfants qui arrivent là qui ne parlent ni anglais ni français, et par contre, les autres qui, eux, entre guillemets, fonctionnent. Oui, c'est tout un casse-tête, hein, quand même,
absolument,
hein, M. Desport.
Absolument.
Hein?
Tout à fait.
Mais est-ce que vous êtes optimiste, vous, ou est-ce qu'à un moment donné, est-ce que ça ne va pas prendre des moyens à un moment donné pour non pas séparer tout ce monde-là, mais est-ce qu'on fait la bonne affaire en mélangeant tous ces élèves ensemble?
Je pense que je ne fais pas justement de mauvaises prédictions en disant que notre ministre de l'Éducation a déjà pris les devants par rapport aux dispositions. Et puis je pense que de manière très générale, il donne vraiment une bonne vision, une bonne orientation, une bonne opinion des choses qu'il a déjà entrepris. Et je pense que en continuant à s'appuyer sur le travail colossal que font les enseignants déjà dans les commissions scolaires et dans les différentes écoles du Québec, avec justement l'appui du ministère de l'Éducation, je pense qu'on révolutionnera peut-être pas la façon dont les troubles d'apprentissage fonctionnent au Québec, mais je pense qu'on se dirige vers un mieux.
On s'y intéresse.
Vraiment.
On s'y intéresse en tout cas, parce que vous avez raison de souligner hein, l'apport de nos enseignants là, qui sont la plupart sur les genoux d'ailleurs.
Tout à fait.
Bon, bah, écoutez, est-ce qu'il y a dans la programmation des points forts dont vous voudriez nous parler au sein de ce 42e congrès?
Bah, écoutez, comme certaines personnes qui ont déjà participé au congrès le savent, c'est un congrès qui est très riche. On a plus de 75 conférences.
Oh là là.
On a 7 symposiums cette année. On a un grand salon des exposants. On a plus de 40 exposants qui vont être présents sur place proposant des services et des outils adaptés pour les troubles d'apprentissage. Et cette année, une grande nouveauté, les dîners réseautage, donc que l'on met en place, qui est vraiment une formule qui va se passer donc entre midi et 13h et qui donne l'ouverture à un conférencier vedette de pouvoir débattre d'un sujet d'actualité autour des troubles d'apprentissage. Et on est très fiers cette année d'annoncer que la personne qu'on aura le jeudi 23 sera Monsieur Égide Royer, que tout le monde connaît très bien. Et on aura également un invité surprise le 24 venant du ministère de l'Éducation. Donc, je laisse tout un chacun
découvrir
se faire l'idée
ça.
De la personne qui va pouvoir venir.
D'accord. Bon, ben, écoutez, Monsieur Desport, je comprends bien. Très rapidement, où ça se passe?
Alors, ça se passe à l'hôtel West End Montréal sur la rue Saint-Antoine, proche du métro Square Victoria.
D'accord. C'est quand?
Et donc, ça se passera donc du 22 au 24 mars 2017.
D'accord. Il faut s'inscrire ou on peut...
Alors, toutes les inscriptions se font via donc, le site internet de l'Institut, le institutea.com.
Institutea.com, voilà, facile à retenir. Jérémy Desport, merci beaucoup et bon congrès alors au mois de mars.
Merci à vous, Madame Seille, et puis bonne émission.
Merci, c'est très gentil. Au revoir.
Au revoir.
Au Nouveau-Brunswick, une formation de premiers soins en santé mentale est offerte en fin de semaine à Sackville. Les participants apprennent comment réagir lorsqu'une personne de leur entourage est aux prises avec des troubles tels que l'anxiété, la dépression ou l'autisme. La formation est offerte par l'organisme Open Sky et chapeautée par la Commission de la santé mentale du Canada et 21 personnes y participent. La Commission de la santé mentale du Canada estime qu'un Canadien sur trois connaîtra des problèmes de santé mentale au cours de sa vie. La formation sert notamment à détecter ces problèmes le plus tôt possible. Au Nouveau-Brunswick, une douzaine de formateurs offrent ces cours en français et en anglais. Ils sont accessibles à tous et aucune expérience en santé mentale chez les participants n'est requise. C'était d'après le reportage d'Anaïs Brasier. À l'international, au Burkina Faso, de jeunes sourds et entendants étudient ensemble. À Ouagadougou, près de 500 étudiants sourds sont scolarisés au CEFISÉ, parmi 3800 élèves selon une méthode d'éducation dite inclusive. C'est par Agathe Charnay dans le journal Le Monde Afrique de Ouagadougou. Lorsqu'on l'interroge sur son avenir, les doigts de Salif Fatou s'agitent avec rapidité. « Quand je serai grande, je voudrais être infirmière », dit-elle par signe, tandis que son enseignant s'empresse de traduire oralement. Salif Fatou, 13 ans, est sourde, actuellement en classe de CM1. Elle est scolarisée au CEFISÉ, le Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants à Ouagadougou, au Burkina Faso. Avant d'arriver au centre, elle ne connaissait pas la langue des signes et ses échanges avec son entourage se limitaient à quelques gestes simples. Et si aujourd'hui, pour poursuivre son éducation primaire et secondaire à Ouagadougou, Salif Fatou doit vivre loin de sa mère, rester au village, elle est loin d'être découragée par les contraintes liées à son handicap. « Je suis bien ici », confie-t-elle, avec un sourire apaisé. « Je veux apprendre et préparer mon avenir ». Si la scolarisation des enfants handicapés est une première étape, la question de leur insertion professionnelle se pose également. Certains employeurs ne nous croient même pas quand on leur explique qu'ils sont diplômés, déplore Thérèse Cafando. Pour faciliter cette insertion professionnelle, l'établissement se penche sur un nouveau projet, la création d'un cycle d'enseignement supérieur inclusif. Groupe relève pour personnes aphasiques, activités de communication, stimulation, zoothérapie, art-thérapie, musicothérapie, exercices adaptés et activités culturelles sont offertes aux personnes souffrant de problèmes de communication à la suite d'un AVC. Ça se passe dans des nouveaux locaux au 268 Grande Côte à Saint-Eustache. Un accueil du lundi au vendredi de 10h30 à 15h30. Pour information, dans le 450-974-1888. Voilà, ainsi s'achèvent les paractualités du 21 février 2017. Merci à toute mon équipe et merci à vous. C'était Clotilde Sey qui vous souhaite une bonne journée. À demain, 11h30.